On entend souvent, non, j'ai mal commencé. On entend parfois dans nos églises des conversations comme celle-ci. Tu étais au culte la semaine passée? Oui, bien sûr. Et qui a prêché? Ah, c'était un tel. Et c'était comment? Waouh! C'était vraiment super, t'as vraiment manqué quelque chose. C'était une prédication, mais mon ami, c'était extra. Et en plus, le PowerPoint, il était incroyable. Ah, il a parlé sur quel sujet? Quel sujet? Je m'en souviens pas, mais en tout cas, c'était super. Alors, cette conversation tout à fait imaginaire peut prêter à sourire, mais elle dénote quand même une triste réalité. La parole de Dieu ne s'imprègne pas toujours en nous quand nous la lisons ou quand nous l'écoutons. Et que dire quand la prédication est ennuyeuse, déstructurée ou mal apportée? Nous avons en main le parfait alibi pour la mettre de côté. Tu étais au culte la semaine passée? Oui, bien sûr. Et qui a prêché? Ah, c'est un tel. Et c'était comment? Bof. J'aurais mieux fait de rester chez moi. Ça, c'est sûr. Et c'est sûr que j'aurais fait mieux que lui si on m'avait demandé. Ah, et il a prêché sur quel sujet? Quel sujet? Je ne m'en souviens plus, mais de toute façon, c'était nul. Donc, conclusion, quelle que soit la prédication... Et je vous laisse terminer la suite dans votre tête. Alors, dans notre église, nous avons une chance que d'autres églises n'ont pas toujours, c'est d'avoir le plus souvent un PowerPoint qui accompagne la prédication. Alors, non seulement on peut entendre la prédication, mais en plus, on peut la lire. Et voilà, le petit triangle que vous voyez devant vous nous dit qu'une personne normale, hein, normale, ne retient que 10% de ce qu'elle lit, 20% de ce qu'elle entend et 30% de ce qu'elle voit. Mais par contre, quand on conjugue ensemble ce qu'elle voit et elle entend, eh bien, elle retient le 50%. Et en plus, le 70% de ce qu'elle entend et répète. Donc, si quelqu'un ne va pas au culte, ben, vous pouvez lui répéter le culte, 70%. Mais c'est souvent rare, hélas. Donc, au mieux, nous allons retenir que le 50% de ma prédication. Alors, choisissez la bonne moitié. Mais comment faisait le peuple de Dieu pour se souvenir de ce qui était dit? Ils n'avaient pas de PowerPoint, eux. Puis d'ailleurs, beaucoup ne savaient même pas lire. Dans l'Ancien Testament, au travers de Moïse, entre autres, Dieu parle à son peuple. Et en Deutéronome, le chapitre 4, le verset premier, Dieu dit les paroles suivantes. « Dès maintenant, Israël, écoute pour les mettre en pratique les prescriptions et les ordonnances que je vous enseigne, afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. » Amen. Autrement dit, Dieu ne demande pas seulement à son peuple d'écouter ce qu'il a à dire, mais en plus, Dieu lui demande de mettre en pratique ses prescriptions et ses ordonnances à partir du moment où il l'a entendu, dès maintenant. C'est la condition que Dieu donne de mettre en pratique la parole pour qu'il puisse entrer dans le pays promis, afin, nous dit la Bible, que vous viviez et que vous entriez en possession du pays. Le chapitre suivant, donc ceux qui suivent, c'est Deutéronome 5, le verset 1er. Moïse, enfin pédagogue, leur dit comment y parvenir. Et je lis ce verset. Moïse convoqua tout Israël et lui dit, « Écoute Israël les prescriptions et les ordonnances que je proclame aujourd'hui à vos oreilles. Apprenez-les. Observez-les pour les mettre en pratique. » Et c'est intéressant parce que entre le écouter puis les mettre en pratique, eh bien, il y a quelque chose, et ce quelque chose, c'est apprendre. Apprenez-les. Alors pour apprendre, et sous-entendu apprendre, par cœur. Il faut écouter. Il faut écouter plusieurs fois. Il faut dire et redire ces paroles. Il faut les lire et les relire constamment pour qu'elles puissent s'imprimer dans notre cœur, dans notre vie. Et ainsi, on va quitter une vie passive qui ne fait qu'écouter, qui ne produit rien, pour entrer dans une vie active dans laquelle nous investissons, nous passons du temps avec la parole jusqu'à ce que cette parole fasse partie de nous. Il nous faut ensuite l'observer, non pas la regarder de loin, mais la racine hébraïque a donné le mot « garder », avec l'idée de la voir avec soi, sous la main, pour pouvoir la méditer, l'observer, la regarder à n'importe quel moment de la journée. C'est alors, une fois qu'on l'a apprise et qu'on l'a observée, qu'on peut vraiment la mettre en pratique. Et la suite de ce chapitre 5 montre la détermination du peuple de Dieu à entrer dans les plans que Dieu avait pour eux. Et voici ce que les Juifs vont dire à Moïse au verset 27. « Approche-toi, écoute tout ce que dira l'Éternel notre Dieu, et toi, tu nous rediras tout ce que l'Éternel notre Dieu t'aura dit. Nous écouterons et nous le ferons. » Israël a confiance en ce que Moïse va recevoir de la part de Dieu, sans même connaître le contenu de ce qui va être partagé. C'est comme s'il signe une page blanche et laisse le soin à Dieu de la remplir. Ainsi, ils vont écouter les paroles de Dieu, toutes les paroles de Dieu, et les mettre en pratique avec une déclaration solennelle, nous écouterons et nous le ferons. Nous écouterons et nous le ferons. Chacun a sa part de responsabilité. Moïse doit apporter la parole de Dieu, celle que Dieu a pour eux, à ce moment précis, à un temps donné. Et eux, les Juifs, s'engagent à faire ce que Dieu a montré, quelle que soit cette parole. Nous écouterons et nous le ferons. Dimanche prochain, ce sera notre pasteur principal, Luc Haussmann, qui apportera la prédication. Et en référence à Deutéronome 5, 27, nous, en tant qu'Église, nous lui disons aujourd'hui... Non, attendez. Vous allez trop vite, là. On voit que vous êtes encore jeune. Luc, approche-toi de Jésus. Écoute tout ce qu'il a à te dire. Et toi, tu nous rediras par ta prédication tout ce que l'Éternel, notre Dieu, t'aura dit. Nous écouterons et nous le ferons. Amen. Ça vaut la peine que je le redise parce que des fois on dit « je ne me souviens pas, j'ai oublié, c'était nul ». Luc, approche-toi de Jésus, écoute tout ce qu'il a à te dire. Et toi, tu nous rediras par ta prédication tout ce que l'Éternel, notre Dieu, t'aura dit, nous écouterons et nous le ferons. Et ainsi de suite, dimanche après dimanche, culte personnel après culte personnel, jusqu'au retour de Jésus, nous écouterons et nous ferons. Alors qu'en est-il du Nouveau Testament, parce que vous pouvez me dire, bon, c'était l'Ancien Testament, qu'en est-il aujourd'hui? Eh bien, quand Jésus parlait et quand il enseignait, les foules n'étaient pas du tout insensibles à sa prédication. D'ailleurs, en Matthieu, le chapitre 7, les versets 28 et 29, il nous est dit ceci. « Quand Jésus eut achevé ce discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il les enseignait comme quelqu'un qui a de l'autorité et non pas comme les scribes. » J'ai réfléchi à cette parole. J'ai réalisé que, bien sûr, les foules étaient frappées de son enseignement, mais la Bible ne dit pas que ces foules faisaient ce que Jésus disait. Elles étaient juste frappées. « Waouh, c'est super, waouh, quel beau PowerPoint !» Et c'est tout. Parce que c'est une chose que d'être touché dans ses émotions ou dans son intelligence par la parole de Dieu. Mais c'est une autre chose que de la mettre en pratique, de mettre toute la parole de Dieu en pratique. Et le fait de la mettre en pratique, ben Jésus en a fait le centre de ses priorités. Il a toujours vécu sa vie en mettant en pratique la parole de Dieu. Et il veut aussi que ce soit notre priorité dans notre vie. Et avant de quitter ce monde, Jésus a donné bien plus que des prescriptions, bien plus que des ordonnances. Il nous a donné un ordre de marche pour quiconque désire le suivre. Et on le trouve dans le chapitre 28 de Matthieu, versets 18 et 20, des versets que vous connaissez certainement très bien. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. » Alors d'abord, il y a une certitude au verset 18, pleine de promesses. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ensuite, cette grande commission, verset suivant, faites des disciples. Et qu'est-ce qu'il faut faire avec ces disciples une fois qu'ils sont convertis? Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais une fois baptisés, que faire avec eux le reste de leur vie? Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Alors il est intéressant de considérer que beaucoup de chrétiens arrivent à citer par cœur « Allez et faites des disciples et baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » mais qu'ils ont un petit peu plus de difficultés à dire la suite et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Cette parole de Jésus ne s'adresse pas seulement à ses apôtres, mais également à toute personne qui a accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, à moi, mais aussi à vous. Parlons un peu grec. Je lis le ministère de pasteur et d'enseignant. Et justement, le premier verbe enseigné de ce verset 20, « Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit », en grec se dit « didasco », et puis en français, ça a donné le mot « didactique », qui instruit, qui explique, qui est pédagogue. Et enseigner, dans la Bible, le mot « enseigner » est quasiment toujours utilisé dans le contexte d'enseigner la parole, d'enseigner la Bible. Et puis, ça veut donc dire transmettre une connaissance, transmettre une valeur, un commandement, transmettre un ordre. C'est faire apprendre aux autres. Et l'élève, puisqu'il y a une sorte d'apprentissage, d'école, la Bible ne met pas le mot élève, elle met le mot disciple. Mais c'est la même chose. Un élève, c'est un disciple. Elle reçoit cette connaissance d'autres personnes. Et dès sa conversion, elle va commencer cet apprentissage d'apprendre des choses nouvelles qu'elle ne connaissait pas avant. C'est pour ça qu'il faut les enseigner. L'Église, c'est une école biblique permanente où on apprend à tout moment, tout au long de l'année. Et dans vos Bibles, c'est traduit par « enseignez-leur, apprenez-leur ». Cette racine du verbe enseigner, didasco, est utilisée 220 fois dans le Nouveau Testament. Ça veut dire une fois tous les 36 versets. C'est énorme. Et je me suis dit que c'est vraiment le fil rouge de la vie du disciple, d'être enseigné. Un disciple doit être enseigné s'il veut grandir. Le deuxième verbe, garder, dans ma version colombe, terrain en grec, c'est garder, c'est veiller, c'est observer comme une sentinelle. Et dans vos Bibles, Il est traduit par observer, obéir, mettre en pratique, pratiquer ou garder. Et enfin, le troisième verbe, prescrire, se dit entelomai, et puis ça veut dire commander, prescrire, donner des ordres pour atteindre un but. Et dans vos Bibles, vous trouvez le mot prescrire, donner et commander. Et quelle que soit la version de votre Bible, le sens est toujours identique. Jésus nous demande d'être des étudiants de sa parole et de faire ce qu'il nous dit. Alors on peut continuer et combiner ces différentes traductions. Je vous en propose trois. La première, apprenez à garder tout ce que je vous ai donné. Deuxième, enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Une autre, apprenez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai commandé. Vous pouvez vous amuser à combiner d'autres parties de ce verset. Le sens est toujours le même. Dieu désire que nous fassions ce qu'il nous demande. Il reste un petit mot qui a une grande importance dans ce verset 20, c'est le mot « tout ». Enseignez-leur à obéir à tout, tout ce que je vous ai prescrit. Et pour moi, comme pour vous, tout, c'est tout. Et on n'a donc pas loisir de décider par nous-mêmes si nous allons obéir à tel ou tel commandement de la part de Dieu. Observez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. On est vraiment, en tant qu'enfant de Dieu, appelé à mettre en pratique tout ce que Jésus nous demande. À chaque fois que nous écoutons une prédication, à chaque fois que nous lisons la Bible, Jésus, par son esprit, nous donne des instructions souvent très claires, très précises. Il attend de nous, de chacun de nous, que nous mettions notre point d'honneur à faire tout ce qu'il demande. Pourquoi ? C'est lui le Seigneur. C'est lui le Seigneur. Vous savez, nous savons très bien écouter, mais nous ne mettons pas en pratique, pas souvent. Parce qu'on oublie tellement vite ce que Dieu nous dit. En écoutant et en mettant en pratique ce que Dieu nous dit, tout en bas, c'est le 90% des choses que nous pouvons retenir. Cela signifie que la mise en pratique de la parole fait grandir notre foi bien plus vite que n'importe quoi. Et le fait de faire des choses, c'est-à-dire de redire les choses ou de mettre en pratique, fait de moi un disciple. Dans le cours « Vivre libéré » que nous avons eu il y a quelques mois, j'ai été interpellé par deux phrases. J'avais dit une fois un propos dans le cadre de l'Église, mais j'aimerais les redire, ces deux phrases, parce qu'elles m'ont vraiment percuté. Et j'espère que ça sera aussi pour vous. Je ne les ai pas notées parce que j'aimerais que ça soit que le 20% qui reste. Le chrétien croit ce que la Bible dit. Le disciple obéit à ce que la Bible dit. Et on voit ici dans ces deux phases le chrétien et le disciple. Je vais le répéter parce que c'est tellement fort. Le chrétien croit ce que la Bible dit. Le disciple obéit à ce que la Bible dit. J'aimerais terminer par encore quelques versets, d'abord dans Jacques, le premier chapitre, versets 22 à 25, qui nous disent, vous ne serez pas étonnés de lire ces versets, « Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement, en vous abusant par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. » Je trouve que c'est une parole sévère que Jacques adresse aux chrétiens de son époque. Mais par là, on apprend que les premiers chrétiens avaient déjà eux aussi des difficultés à écouter et à mettre en pratique la parole de Dieu. Mais ce que Jacques dit, c'est difficile à entendre. Il nous dit, écouter la parole, ça ne sert à rien. Je peux venir au culte dimanche après dimanche pour écouter la parole de Dieu, mais si je fais rien, mais j'ai gâché mon temps. Je m'abuse moi-même en croyant que je plais à Dieu. Et Jacques compare l'écoute de la parole à une personne qui se regarde dans un miroir. Elle se voit telle qu'elle est, sans filtre, Instagram, sans retouche, vraiment comme elle est. Mais si son visage est sale, et qu'elle voit cette saleté sur son visage, c'est comme si elle ouvre la Bible et qu'elle voit son état spirituel. Si elle referme la Bible, si elle s'enfuit loin de son miroir et qu'elle oublie que cette personne, elle est sale, les autres le verront. Pas forcément elle, mais les autres le verront. Et ne pas mettre en pratique la parole de Dieu, c'est laisser son visage sale, son cœur sale, sa vie sale. C'est oublier que le péché nous salit, c'est oublier ce que le miroir nous montre, c'est nous abuser nous-mêmes en croyant que tout va bien. Jacques dit « pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement » c'est drôle, hein ? Comme si les gens de son époque, ils faisaient qu'écouter seulement la parole de Dieu, puis après ils disaient « ah, c'était super, on a vu Netflix, au revoir ». Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement, en vous abusant par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais heureusement pour nous, Jacques continue au verset 25 en disant ceci, « Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère, non pas en écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. » Et moi je trouve beau, on ne peut pas tout dire, hein, le temps aussi m'est compté, mais il y a du bonheur à mettre la parole de Dieu en action. Il y a du bonheur à mettre la parole de Dieu en pratique. Alors ce que tu comprends dans la Bible, mets-le en pratique et tu seras heureux, c'est en substance ce que Jacques nous dit. Si tu lis la Bible, si tu entends une prédication et quelque chose te parle, fais-le. Nous écouterons et nous le ferons. Et Jacques fait l'écho à ce que Jésus dit en Jean 13, verset 17. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. Ainsi, une bonne prédication, ce n'est pas celle qui est parfaite. Ce n'est pas celle qui est parfaite au niveau théologique ou au niveau de l'élocution. Une bonne prédication, ce n'est pas celle qui est avec un PowerPoint. Une bonne prédication, ce n'est pas non plus une prédication où il y a de l'humour, où il y a des anecdotes ou un témoignage poignant qui nous captive. Tout ça, c'est bien, c'est même très bien. Je nous encourage en tant que prédicateur à vivre ces choses. Mais une bonne prédication, quelle qu'elle soit, c'est d'abord une prédication que je mets en pratique dès que je peux. Une bonne prédication, c'est une prédication que je mets en pratique aussitôt. Et je serai certain de ne pas l'oublier. Mais pourquoi mettre la parole de Dieu en pratique? Pourquoi? D'abord parce que c'est biblique. Oui. Mais même si c'est biblique, ce n'est pas pour ça. D'abord parce que Dieu me le demande. Non. Ce n'est pas d'abord parce que Dieu me demande que je mets la parole de Dieu en pratique. Puis ce n'est pas d'abord pour être heureux non plus, même si j'ai bien envie d'être heureux en mettant la parole de Dieu en pratique. Puis ce n'est pas non plus d'abord parce que Jésus est Seigneur de ma vie que je mets en pratique la parole de Dieu. Je mets sa parole en pratique parce que j'aime Jésus. Je mets sa parole en pratique parce que j'aime Jésus. Alors, attendons-nous ces prochains jours, aujourd'hui même, à ce que Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre, et mettant un point d'honneur à mettre en pratique sa parole, comme des disciples que nous sommes. Que notre décision ce matin soit, nous écouterons et nous le ferons. Amen. Alors on va prier. Et pendant le temps de louange, j'ai reçu un verset que j'avais complètement oublié et puis que Dieu m'a remis à l'esprit. J'aimerais vous le lire pour entrer dans ce temps de prière. C'est Jean 15, verset 14. Écoutez, c'est Jésus qui parle. Vous êtes mes disciples, si vous faites ce que je vous commande. Prions. Jésus dira même ceci, vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Seigneur Jésus, c'est clair que je dis dans mes prières, dans les chants, que je suis ton ami. Mais si je fais qu'écouter ce que tu me dis sans rien y faire, c'est triste pour moi, c'est triste pour la relation qu'il y a entre toi et moi. Et je veux changer, Seigneur. Je crois que ces paroles que les Juifs ont dit à Moïse, c'est des paroles que nous pouvons, nous, te dire ce matin, Jésus. Je t'écouterai et je ferai ce que tu dis. Je t'écouterai et je mettrai en pratique tout ce que tu me dis. Et si tel est votre désir ce matin d'arrêter de clocher des deux pieds avec Jésus, eh bien dites-lui, je t'écouterai et je ferai ce que tu dis. Si c'est votre cas, bien levez-vous. Dites-lui que vous voulez vraiment être un disciple, un ami de Jésus. Demandez-lui pardon en disant, mais Seigneur, j'ai tellement gâché des paroles que tu m'as données. Elles sont tellement tombées à terre et je n'ai rien fait. Mais aujourd'hui, je veux reprendre le courage de te laisser diriger ma vie. Enseigne-moi à obéir à tout ce que tu me montreras, Jésus. Et le prix, tu l'as déjà payé pour moi, à la croix. Et tu me dis que si je mets ces choses en pratique, alors je suis heureux. Merci. Parce que tu nous dis tout, Seigneur, pour que nous puissions entrer avec confiance dans tes plans. Et ce matin, c'est ce que nous faisons. Amen.